Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Peter Uwe Schmidt et Aurore Martin, les amants diaboliques. Un document de Guillaume Maury, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Peter Uwe Schmidt et Aurore Martin. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont blonds, ils sont sportifs et mariés. Mais pas ensemble. Lui, avec Ursula Deschamps, elle, avec Marc von Berth. Deux mariages qui ne vont pas durer longtemps, car Ursula et Marc vont disparaître l'un après l'autre dans un accident. Samedi 29 août 1992, Mons, en Belgique. Il est 22h quand un cabriolet quitte la route principale et termine sa course dans le canal. Sous l'eau, l'homme réussit à s'extraire de la voiture. Son épouse n'a pas la même chance. Elle est introuvable. Des plongeurs sondent le canal. Le conducteur, lui, est hospitalisé. L'homme s'appelle Peter Uwe Schmidt. Sa femme, Ursula Deschamps. Ils sont mariés depuis 6 mois.
C'est des beaux sourires ici. C'est des beaux sourires.
C'est très beau aussi.
Peter et Ursula ont 22 ans quand ils se disent oui, pour le meilleur et pour le pire.
Chin chin.
Allez, santé. Santé. Santé, bonheur. Santé.
Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps.
Elle est magnifique, elle est en tailleur, on est tous sur notre 31. Pour nous, c'est gai un mariage, c'est une fête, c'est toute la famille, on est en pleine de joie, donc c'est chouette. La petite originalité, c'est Peter Uwe Schmidt. Il était en costume rose avec une chemise mauve, quoi. Donc c'était la petite originalité de Peter Schmidt.
Ursula Deschamps est étudiante en langues étrangères. Peter Uwe Schmidt est caporal allemand au SHEP, la base militaire de l'OTAN où il effectue son service militaire.
John Pearson, membre de la base militaire du SHAP.
Au sein de la base du SHEP, il était chauffeur à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui avait sa mission là-bas. Il était en uniforme, toujours très clean, souriant, impeccable. Voilà, c'était je crois aussi un chauffeur d'autorité. Donc il n'était pas rare de le voir dans une voiture de service avec un colonel derrière lui. C'est quelqu'un de sportif, on voit qu'il a une certaine corpulence, souriant, charmant.
Peter et Ursula se sont connus en boîte de nuit 4 mois avant leur mariage. Un coup de foudre.
C'était un beau garçon qui parlait pas français, qui avait l'air tout câlin avec elle, mais moi j'ai plus regardé en disant, il est pas mal, hein. Voilà, c'est plus comme ça que j'ai vu Schmidt. Plus comme un bonbon, quoi.
Mais la lune de miel ne va pas durer longtemps. Très vite, le couple bat de l'aile. Peter est souvent absent. Ursula a l'impression d'être délaissée.
Je la sens pas épanouie, pas heureuse. Pas heureuse du tout. Comme je suis sa sœur, je lui pose des questions. Et ça va, tu te plais? Non, j'ai du mal. Peter est jamais là, il est difficile. Tu sais, c'est pas facile. Donc, elle se retrouve seule.
Gladys vient souvent réconforter sa grande sœur et lui remonter le moral. Un soir, elle assiste à une scène très violente.
J'entends qu'il ouvre la porte, qu'il claque la porte. Ma sœur m'attrape. Elle m'entraîne dans la salle de bain. On s'enferme à clé. Elle me dit « Oui, il va avoir sa crise. Tu vas voir, il va commencer à tout casser. » J'ai dit « Enfin, Ursula, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait quelque chose ?» Il casse tout, il commence à crier. Ursula, come on ! Il commence à crier pour qu'elle sorte et elle me dit non, on sort pas, on bouge pas. De toute façon, j'ai le téléphone. S'il casse la porte, on appelle la police. Et moi, j'ai 18 ans, je suis terrorisée. Un homme comme ça, j'ai jamais vu.
Et Peter s'en va en claquant la porte. Les deux sœurs découvrent l'appartement sans dessus-dessous. Au bout de 2 heures, Peter revient.
Comme je suis là, quelque part, je pense que... quelque part, j'ai peut-être évité quelque chose du fait de ma présence. Mais quand je vois son agressivité, parce qu'il attrape ma sœur, je me mets entre. Quand je vois la manière dont il est avec Ursula et son visage qui change... Et là, j'ai vu un autre personnage. Et c'était un autre homme devant moi. C'était plus la gueule d'ange, c'était le diable, le démon.
Ursula explique à Gladys pourquoi Peter s'est mis dans une telle colère.
Ma sœur avait ouvert une armoire où elle ne pouvait jamais aller et elle avait été jeter un œil. Et ma sœur m'a dit, il magouille. Il fait des choses. Il y a trop d'argent dans l'armoire. Et je suis tombée dessus et il l'a vu.
Ursula a effectivement fouillé là où elle n'aurait pas dû. Depuis quelques semaines déjà, son mari est dans le collimateur de la police. Peter Schmidt est soupçonné d'être au cœur d'un vaste trafic, voitures volées et escroqueries diverses à l'assurance.
Inspecteur Alain Orlinck, police fédérale auprès du CHAP.
À Bruxelles, il est intercepté par la police alors qu'il a dans les mains des plaques d'immatriculation, les boulons, le tournevis, la pince, les plaques étant volées sur un véhicule qui était stationné un petit peu plus loin. Bon, lui, il explique ça aux policiers en disant « Je les ai trouvés par terre, je les ai ramassés pour pas que ça traîne. » Il est trouvé en possession d'une petite bombe de gaz paralysant et d'un pistolet à gaz.
Ursula n'en peut plus des secrets et des colères de son mari. Elle le quitte et retourne vivre chez son ex-petite amie à Bruxelles.
Elle décide de reprendre sa vie en main et Schmidt n'en fait plus partie. Dans sa tête, c'est clair et net, Schmidt n'existe plus.
De leur côté, les policiers amassent des billes contre Peter Schmidt.
On avait fait une petite perquisition chez lui et on s'était rendu compte que son épouse n'habitait plus chez lui. Donc, le mariage étant très récent, ça nous a semblé un petit peu bizarre et nous avons pris contact avec l'épouse. Et nous l'avions convoquée. Elle devait se présenter à la brigade chez nous et nous comptions l'interroger sur les activités que nous pensions être délictueuses de son époux.
Avant de témoigner, Ursula fait les choses dans l'ordre. Elle commence par annoncer sa rupture à toute sa famille lors d'une réunion chez son père.
Elle débarque avec un sac et... Elle annonce, elle me dit, écoute Gladys, on va divorcer, c'est clair et net, on va divorcer. D'ailleurs, ce soir, j'ai encore un dîner et je pars à Mons et je vais le voir pour la dernière fois et il va signer les papiers du divorce. Je fais un gros bisou à ma sœur et je lui dis, bah écoute, c'est chouette, c'est le dernier moment où j'ai vu Ursula.
La suite, c'est l'accident. Peter et Ursula plongent dans le canal. Ursula reste prisonnière des eaux, tandis que Peter parvient à sortir de la voiture. Les secours le conduisent à l'hôpital. Peter Uwe Schmidt. Quand l'inspecteur Orling de permanence ce soir-là entend ce nom, ça fait tilt. Il enquête sur les activités suspectes du caporal et il sait qu'Ursula est convoquée 2 jours plus tard par la police au sujet des malversations éventuelles de son mari. Alors forcément, cet accident tombe mal. Et les policiers n'aiment pas trop les coïncidences. Comme Peter Uwe Schmidt n'est pas blessé, l'inspecteur le ramène dans la nuit sur les lieux de l'accident. Malgré les indications de Peter Uwe Schmidt, la voiture et le corps d'Ursula sont introuvables. Alain Oerling interroge le caporal allemand.
Au départ, j'ai cru qu'il était choqué. Mais bon, il a répondu à mes questions très facilement. Je dirais qu'il était un peu froid. Moi, je pense que un jeune marié qui a perdu son épouse, il aurait dû être très catastrophé, mais il ne m'a pas donné du tout cette impression-là.
Peter détaille les circonstances de l'accident. Il a récupéré Ursula en fin de journée à la gare de Mons. Ils sont allés chez lui et ils sont sortis vers 21h15. Ils voulaient lui apprendre quelques rudiments de conduite.
Il s'est engagé le long du canal. Et à un moment, il a cru prendre une rue vers la gauche, dit-il. Et en fait, c'était un quai de chargement. Et le temps qu'il réalise la chose, comme il roulait vite, et au départ, il nous déclare qu'il roulait aux environs de 100 km/h, qu'il était en train de consulter une carte pour retrouver les lieux et qu'il parlait en même temps à son épouse. Le temps qu'il réalise, c'était trop tard, la voiture était en l'air sur le point de toucher l'eau. Ça nous semble étrange, parce que de donner des leçons de conduite d'abord à sa femme dont il est séparé, ça nous semble un peu bizarre. Et puis, vu l'heure tardive, tout à fait bizarre aussi pour nous.
Adolphe Deschamps, vous êtes le père d'Ursula. Quand les policiers apprennent que votre fille et votre gendre ont eu un accident, ils pensent tout de suite qu'il y a eu quelque chose de louche là-dessous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est votre sentiment à ce moment-là ?
Quand ils m'ont téléphoné, ça a été mon sentiment. J'ai dit, c'est pas un accident, c'est un meurtre, point la ligne.
Et pourquoi vous pensiez ça ?
Parce que je sentais.
Ce soir-là, je crois que vous ne vouliez pas que votre fille, justement, aille rejoindre Peter Schmidt pour régler cette histoire de divorce.
Oui, exactement.
Pourquoi ?
Parce que je voulais aller avec. Je lui ai demandé si on pouvait parler plus tard. Elle a dit non, je suis pressée. Et moi, j'avais un rendez-vous aussi. Donc j'ai dit, remets ça plus tard. Mais elle n'a pas voulu.
Et vous aviez peur de quoi ?
Qu'il lui fasse quelque chose. J'avais un pressentiment. Rien que le jour où je l'ai rencontré, j'avais compris, quoi. C'était un garçon bizarre.
Mais bizarre, ça ne fait pas forcément quelqu'un de dangereux.
Apparemment, non. Comme ça, non.
Elle vous avait posé une question un peu étrange juste avant l'accident.
Oui, tout à fait. Papa, s'il m'arrive quelque chose, si la voiture tombe dans l'eau, comment on s'en sort ? Ben moi, je lui ai expliqué, quand tu tombes dans l'eau avec une voiture, bon, il ne faut pas paniquer. Essayez de ne pas paniquer. Laissez rentrer l'eau jusqu'à une certaine hauteur, et puis tu ouvres la porte et tu sais sortir.
Et vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle vous posait cette question-là ?
Non, je n'ai pas posé la question. Parce que je n'y pensais pas, quoi.
Est-ce que vous saviez que votre fille allait être convoquée par la police 2 jours après l'accident ?
Elle m'a dit, papa, je dois aller à la PJ du CHEP parce que mon mari Schmidt, il magouillait. Et je pense qu'elle allait dire à la police ce qui se passait.
Le lendemain de l'accident, les plongeurs retrouvent la voiture sur le toit, au fond du canal. Mais toujours pas de traces d'Ursula. Alors que les recherches se poursuivent, Schmidt est de nouveau entendu. Et il s'embrouille sur les circonstances de l'accident.
À un certain moment, il dit qu'effectivement, lors d'une replongée, il aurait touché la main ou le bras d'Ursula, mais il n'a pas su l'aider, puis il serait retourné, il ne l'aurait plus retrouvée. À un autre moment, il dit qu'à un certain point, il a vu la tête d'Ursula au-dessus de l'eau, mais il ne sait pas dire si c'est de face ou de dos. Enfin, c'était un petit peu boiteux.
Schmidt explique qu'il est sorti de la voiture par la lunette arrière. Il imagine que le corps d'Ursula a dû être emporté de la même façon.
C'est aussi une chose qui nous a semblé étrange, c'est que la voiture étant très basse, c'est une voiture de sport, très très basse, La lucarne arrière étant tellement petite, je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas comment un corps aurait pu sortir tout seul de cette voiture. Ça me semble, à moi, impossible.
La version de Schmitt n'est pas très crédible, d'autant que les policiers ont découvert un nouvel élément troublant.
Le mobile, probablement, c'est l'argent. Puisque rien avant, moins d'un mois avant l'accident, M. Schmitt avait pris une assurance vie sur la tête de son épouse, de plusieurs millions de francs belges.
Le corps d'Ursula est toujours introuvable après 3 jours de recherche dans le canal. Les policiers ne lâchent pas Peter Schmitt même s'il est libre. Ils le confrontent aux contradictions soulevées par l'enquête.
Il est calme. Et puis à un certain moment, quand il a été mis en mauvaise position, il est devenu fou furieux, réellement. C'est tout juste qu'il n'a pas bondi sur la table, sur le bureau, entre nous deux. Et dans une crise de rage, quelque chose d'effroyable. Un regard fou, je veux dire. Je sais pas, on aurait dit la personne prête à tout. Mais c'est... Allez, je veux dire, c'est quelques secondes. Et puis, hop, il retombe tout de suite. Il est retombé tout de suite dans son apparence habituelle. Voilà.
Les policiers ne tirent rien de Peter Uwe Schmitt. Il maintient sa version, c'est un accident. 4 jours après le drame, un promeneur découvre le corps d'Ursula à 300 mètres de l'endroit où la voiture a été repêchée.
Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps.
Le commissaire me reçoit. C'est une image qui m'a marquée. C'est que je vois toutes les affaires de ma sœur qui sèchent dans son bureau. Vous imaginez ? Son sac, ses photos, c'est ci, c'est là, ses affaires, c'était insoutenable.
L'autopsie du corps conclut à la mort par noyade. Aucune trace suspecte n'est découverte sur le corps par le médecin légiste. Donc la conclusion, c'est mort par noyade.
La juge d'instruction organise une reconstitution en présence d'un expert accidentologue. Elle réquisitionne un cabriolet de la même marque et le fait déposer sur la berge. Après quelques essais infructueux, Schmitt parvient à sortir de la voiture par la lunette arrière, comme il l'avait indiqué aux policiers.
Pour moi, c'était un petit peu incomplet, en ce sens que sous l'eau, la voiture était à l'envers, alors que sur le quai, elle était à l'endroit, elle était sur ses roues. Donc c'était beaucoup plus facile pour lui de ramper hors de la voiture et il sort... comme ça, par la petite lucarne, alors que sous l'eau, la voiture étant à l'envers, la capote probablement un peu écrasée par le poids de la voiture, ça devait être beaucoup plus difficile, surtout si on ajoute à ça qu'il y a une deuxième personne qui se débat.
Une situation délicate, mais cela n'embarrasse pas l'expert. Au contraire, il confirme la version de Schmitt. Il s'agit bien d'un accident. La juge d'instruction classe l'affaire. Et Peter Uwe Schmitt est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour imprudence lors d'un simple accident de la route. Il écope aussi d'une amende de 87 000 francs belges, près de 2 200 euros.
J'ai l'impression que nous, on a été oubliés. On nous a mis dans un tiroir et on nous a oubliés. On a oublié un papa, une maman, des frères et des sœurs, une famille.
Monsieur Deschamps, comment avez-vous réagi à cette décision de justice, donc cette condamnation pour homicide involontaire par négligence? En fait, un simple accident de la route, c'est ce qu'a dit la justice, oui.
C'est ça. À un moment donné, je ne savais pas tout à fait où j'étais. Est-ce que j'avais, moi, raison? Est-ce que la justice avait raison? Parce que, bon, un père qui perd un enfant peut s'imaginer que c'est un crime et ci et ça. D'ailleurs, certaines personnes dans mon entourage le disaient, écoute, toi tu dérailles, tu mets ça dans ta tête et c'est sûrement un accident. Mais je disais non, c'est pas un accident, mais probablement que c'est un accident. Alors, je ne savais plus où j'étais.
Et vous avez tenté quelque chose? Vous avez essayé de faire une contre-enquête
Qui je vais aller retrouver? Le juge était pensionné ou un truc comme ça, je ne savais pas à quel saint vouer. Et pour finir, je me suis dit, eh ben, accepte, c'est un accident, quoi.
Vous pensez...
Même si dans moi, ce n'était pas un accident, quoi.
Peter Schmidt empoche l'assurance vie contractée par Ursula, 3 millions de francs belges, 75 000 euros. Il quitte l'armée allemande et ne fait plus parler de lui. Corse, 11 mai 95, 1h35, route départementale 81 bis. À la sortie de Calvi, au bord d'un précipice, une femme affolée cherche de l'aide. Des légionnaires en patrouille l'aperçoivent et donnent l'alerte. Elle vient d'avoir un accident de la route avec son mari. Les gendarmes et les pompiers de Calvi arrivent immédiatement sur place.
Sergent-chef Bernard Finidori, sapeur-pompier de Calvi.
Alors elle est dans tous ses états, parce que apparemment, vu ce qu'elle vient de vivre, c'est pas évident. Donc elle crie, elle est affolée, elle a des propos incohérents, etc. Donc c'est pas évident. Elle nous donne les choses un peu comme elles sortent.
Capitaine Enrique Caro Navarro, sapeur-pompier de Calvi.
Elle voudrait qu'on aille tout de suite voir son mari. Elle pleure, elle sanglote, puis de temps en temps, elle nous dit « Oui, mais mon mari, il faudrait aller l'aider. » On lui dit « Mais ne faites pas, madame, il y a déjà des gens qui sont en train de descendre. » On essaie de la calmer. Finalement, le médecin est obligé de lui faire une piqûre de Valium pour la calmer. Quoi.
Je m'aperçois qu'elle a de légères égratignures au niveau des mains, sans plus. La dame est pieds nus, trempée de la tête aux pieds. Par contre, je lui pose des questions pour savoir qui elle est, d'où elle vient, ce qui s'est passé, qu'elle puisse me donner le plus de renseignements possible pour pouvoir orienter justement notre recherche de la personne disparue qui serait dans le véhicule.
Calmée, la jeune femme raconte. Elle s'appelle Aurore Martin, elle est belge. Elle est en voyage de noces avec son époux, Marc Van Bers. C'est lui qui conduisait quand ils ont eu l'accident.
En revenant d'une petite balade en amoureux, il se serait trompé de chemin, aurait voulu faire demi-tour et voyant que la manœuvre se passait mal, le véhicule commence à chuter dans le ravin. Elle a eu le temps d'ouvrir la portière, de sauter du véhicule, mais son mari, lui, n'a pas eu le temps et a été emporté avec le véhicule.
Elle descend au pied de la falaise, extrait son mari de la voiture et le traîne jusqu'à la mer pour lui rincer le visage. Mais c'est trop grave.
Son mari aurait une plaie à la tête. C'est tout ce qu'elle a pu nous dire. Il serait blessé à la tête, inconscient mais blessé à la tête.
En état de choc, Aurore Martin est transportée à l'antenne de secours de Calvi. Les pompiers descendent secourir son mari, mais la pente est très raide. La progression difficile, il fait nuit noire. Les pompiers avancent lentement au milieu du maquis et des rochers acérés.
C'est une falaise qui fait 80-90 mètres de haut. Et donc, il faut serpenter dans ce fatras de rochers pour arriver à descendre jusqu'en bas.
La voiture est à une centaine de mètres plus bas, à quelques pas du rivage.
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je rentre la tête à l'intérieur. Il y a des traces de cuir chevelu, matière blanchâtre que je suppose être de la cervelle un peu, des traces de sang. Tout a volé en l'air dans l'habitacle.
Les chances de retrouver Marc Van Bers vivant sont minces. Le dispositif est renforcé, les broussailles fouillées, des plongeurs interviennent le long de la côte. Au petit matin, après plus de 5 heures de recherche, un plongeur distingue le corps de la victime, prisonnier dans un bras de mer à 3 mètres de profondeur. Le cadavre de Marc Van Bers, 32 ans, est transporté à Calvi.
Le crâne était complètement explosé. Il ne restait rien à l'intérieur. Il avait explosé, les oreilles étaient à hauteur des yeux, quand même, à plat. Donc vraiment une grosse fracture au niveau du crâne à l'arrière, ouverte. Et le fait d'avoir été dans l'eau, c'est peut-être ça qui a fait que la cavité crânienne avait été vidée.
L'opération de secours terminée, les pompiers s'étonnent, au cours du débriefing, des conditions de l'accident.
Quand elle nous dit qu'elle est descendue, sur le moment, je suis surpris parce qu'elle est descendue sans rien, quoi, sans lampe, sans rien.
Pieds nus, nuit noire et de légères égratignures au niveau des mains. Rien sur les pieds, rien sur le reste du corps.
Ça me paraît difficile, mais je me dis, bon, si elle aime vraiment son mari, on se dit, oh la pauvre, c'est vraiment dommage qu'en voyage de noces... Une histoire comme ça lui soit arrivée, parce que c'est ce qu'on souhaite à personne.
La justice française ne trouve rien à redire. Aurore Martin et Marc Van Berst ont bien été victimes d'un accident de la route. La dépouille de Marc Van Berst est rapatriée en Belgique.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Peter Ove Schmidt et Aurore Martin, les amants diaboliques. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que... Je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où... Un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.